Nous sommes le lundi 11 octobre 2021, il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme de ce soir, des ours, des chauves-souris, des petites filles, une interview, des surprises et encore plus. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, nous sommes ensemble pendant une heure et j'espère que vous allez passer un bon moment. Ce soir, on va vous parler de plein de choses, mais j'ai décidé de faire un petit focus sur des BD qui parlent de jeunes filles, parce que j'avais une thématique qui se découlait. Et puis pour commencer cette émission, on va parler d'un album local avec Lola Presque Super, c'est de Tony Muriot et Pauline Caster, et c'est publié aux éditions Kenes. Je vous propose d'écouter une interview d'abord de Pauline avec un petit peu de Tony dedans, et puis on se retrouve juste après pour en parler plus en détail.
Donc Pauline Caster, c'est moi. Je suis depuis quelques années auteur de BD. Waouh, ça en jette ça. J'en ai toujours rêvé de dire ça. Ça y est, je peux le dire. J'ai dessiné Les Joachim, le petit angevin, qui est connu un peu sur Angers, et puis Cali Citrouille, et là, Lola Presque Super.
Est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu envie de te lancer dans la bande dessinée ?
Comment j'en suis venue à la bande dessinée? Avec un crayon et un papier. Ça, c'est... Voilà. Qu'est-ce qui m'a donné de faire envie de... Enfin, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée? Je disais, comme beaucoup de gens, les marsupilamis, les Spirou, je dessinais tout le temps, et puis voilà. Donc j'avais envie de faire la même chose, et de faire des livres entiers, moi toute seule. J'ai pas un parcours en particulier, j'étais pas du tout dans le domaine de la bande dessinée. Par contre, j'ai vécu quelques années à Rennes et puis je suis entrée dans un atelier BD où j'ai un peu appris les codes de la bande dessinée, à mettre les dessins dans les cases. Et puis c'est comme ça que je suis venue vraiment à la bande dessinée.
Tu as une appétence prioritaire pour le dessin ou également des envies de scénario ?
Non, vraiment le dessin en fait. Je suis pas bavarde. Ni au micro, ni dans les cases. Donc non, j'étais vraiment... c'est par le dessin, c'est le dessin qui m'attire. Je suis capable de regarder des BD, de connaître à telle page, tel endroit, je vais retrouver tel dessin, sans connaître le scénario. Des fois, je ne les lis même pas, ouais, je sais, j'avoue. Ou bien je m'en rappelle pas, mais c'est vraiment le dessin qui me marque et c'est les codes du dessin qui m'attirent et qui m'ont donné envie de dessiner.
Est-ce que tu peux nous parler de tes méthodes de travail ? T'es plutôt numérique ou traditionnel ?
Plutôt numérique, j'aimerais bien être traditionnelle mais je sais pas faire, donc je fais la partie crayonnée avec le crayon et le papier, mais après je passe à l'ordinateur. C'est un peu de la triche, c'est pratique parce que quand on se trompe, on peut recommencer. Qu'avec de l'aquarelle ou avec des crayons de couleur, etc., c'est plus compliqué, donc je suis plus sur le numérique.
Comment ça s'est passé le travail avec Tony et Murio?
Avec Tony, c'est hyper compliqué. Non, dans la vraie vie, c'est pas difficile du tout. Tony, au départ, bizarrement, mais voilà, c'est comme ça. Les deux séries qu'on a ensemble, les deux dernières, pas Félix Citrouille, mais Lola Presque Super et puis Olala Jones, c'est moi qui avais eu l'idée initialement. Mais comme je ne sais pas raconter d'histoire, je n'ai pas d'idée. J'ai proposé l'idée à Tony qui a tout de suite eu plein de choses à raconter, ce qui était chouette. Donc je le laisse faire, il écrit les scénarios, il me les propose. Et puis, ça roule impeccable. En fait, on est sur la même longueur d'onde, donc ça fonctionne bien. Moi, j'ai l'idée initiale. Après, Tony, il se débrouille et puis il raconte une histoire en fait autour de l'idée initiale. L'idée initiale, par exemple, pour Lola, c'était on faisait une série autour d'une petite fille qui s'imaginait avoir des super pouvoirs, et en fait, c'est pas vraiment des super pouvoirs. C'est elle s'imagine sa vie qui n'est pas vraiment sa vie. Et puis, Tony, il a réussi à lui donner vie, lui a raconté plein de choses autour de cette idée là mais moi j'avais pas du tout d'idée du fil vers où aller ou quoi que ce soit en fait. Bon, après je mets en image.
Au niveau dessin, quand on te fournit le scénario, tu es complètement libre ou tu t'imposes des choses?
Je prends toute la liberté que j'ai envie de prendre là-dessus, il n'y a pas de souci. Tony, dans sa façon d'écrire, propose un découpage en cases. Moi, je les suis ou je ne les suis pas, ça dépend si j'ai d'autres idées, mais bon, ça colle bien. Après, on est trois en plus sur cet album-là. On n'est que deux sur le papier, mais il y a quand même l'éditeur. Et l'air de rien, l'éditeur, il intervient aussi. Et il nous aide, il nous réoriente si besoin. Donc c'est quand même un travail un petit peu à trois aussi sur Lola.
Est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets?
Lola 2 et Lola 3. Eh ouais, carrément. En fait, l'idée, c'est de... Moi, je dois normalement rendre mes copies d'ici fin juin, si j'y arrive. Mais ouais, là, j'enchaîne, je suis sur Lola 2 à fond. Et donc, si tout se passe bien et si j'arrive à tenir les délais, Lola 3 dans la foulée. Non, je vais essayer de faire une petite série aussi toute seule. Mais ça, ce sera pour la fin d'année, normalement, ou l'année prochaine. Mais c'est en bonne voie.
Et si tu devais convaincre de choisir Lola plutôt qu'un autre album, comment tu le ferais? Ah, c'est Tony qui répond.
Moi non plus, dis donc, je suis pas du tout commercial moi non plus. Mais Lola en fait c'est comme disait Pauline, déjà c'est elle qui a eu l'idée. Elle m'a proposé un concept de petite fille qui s'invente des super pouvoirs et du coup charge à moi après d'étoffer un peu cet univers là, de l'enrichir. Et du coup c'est une gamine qui comme les autres hein, si ce n'est qu'elle est un peu plus fantasque et qu'elle a pas forcément en fait, en tout cas un moment de vie très évident. On comprend assez vite que ses parents viennent de divorcer. Donc du coup là elle est plutôt chez sa maman et elle intègre une nouvelle école par la force des choses et elle affronte ce quotidien en s'inventant des super pouvoirs tous les jours concrètement. Voilà, elle est assise devant un toaster, les tartines sautent et elle se dit tiens c'est moi, je commande aux objets, alors que pas du tout en fait, un toaster fait sauter les tartines, c'est logique. Mais voilà, elle affronte ce quotidien là de cette manière là et du coup quand on est un peu différent ça plaît pas forcément. Et il y en a certains dans sa classe qui vont lui mener la vie un peu dure. Mais fort heureusement, elle va trouver des gens qui, comme elle, ont dû souffrir un petit peu de ce harcèlement des moins bien-pensants. Et voilà, et à eux tous, ils vont s'agglomérer, c'est le terme que j'aime. C'est moche comme tout, en fait, s'agglomérer, c'est pas ça. Ils vont se réunir, voilà, et ils vont former une ligue qui va prouver que l'amitié est plus forte que les harceleurs qui, du coup, vont se retrouver isolés. Je vais pas raconter tout le bouquin, mais en substance, c'est ça, en fait. Voilà, c'est vraiment, en fait, une espèce d'histoire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent se retrouver là-dedans, en fait, hein, des enfants qui, en général, sortent un peu des marges et puis, du coup, sont forcément un peu mis de côté pour ces raisons-là. Je crois qu'il y a plein de presque super un peu partout. Donc ça raconte l'histoire de Lola, mais ça raconte l'histoire de tous les presque super.
Merci Tony et merci Pauline pour cette jolie interview. Alors que rajouter de plus hein, après cette interview pour vous donner envie de lire cet album? Parce qu'effectivement Tony l'a très bien résumé, il s'agit de l'histoire de Lola hein, qui va devoir intégrer une nouvelle école et qui va... s'inventer dans une situation un petit peu difficile des super pouvoirs qu'elle n'a pas forcément, et elle va rencontrer des gens qui sont un petit peu comme elle, un petit peu mis au banc de cette école, et la force des nerds, si je peux me permettre de les appeler ainsi, c'est de se regrouper et d'être capable de rebondir malgré la façon dont on peut les voir. Faut savoir que c'est très choupi, c'est très charmant, le trait de Pauline est vraiment fun, c'est très mignon, les personnages ils sont super facilement reconnaissables, et on s'y attache très très facilement, donc ça fonctionne par système de c'est une page d'une blague, hein. Mais il y a une histoire un petit peu plus longue qui se découle au fur et à mesure, et du coup c'est un exercice qui est un petit peu compliqué, je trouve, et qui est rarement réussi, et là ça fonctionne bien, on va suivre, on va rigoler, et ça fonctionne super bien, ça marche bien. Je vois pas quoi dire de plus à part que faut y aller, c'est accessible à pas mal d'enfants, même aux enfants les plus petits, bon, qui vont pas forcément avoir vécu ce genre de situation, mais qui permettent de découvrir et peut-être aussi d'aider certains enfants à parler d'un mal-être qui peut parfois passer inaperçu. J'en profite pour faire une petite annonce. Donc, avec l'accord des auteurs, et comme on l'a pu le faire précédemment, on a décidé de faire un petit concours pour permettre à tous les auditeurs de gagner un album Lola Presque Super dédicacé. Alors, les modalités sont très simples, que vous ayez beaucoup ou pas de talent pour le dessin, il vous suffit de vous dessiner comme Lola en super-héros. Imaginez-vous dans votre quotidien en super-héros, la façon dont vous avez votre costume ou éventuellement une petite scénette qui vous permet d'utiliser un de vos super-pouvoirs. Mais il faut que ce soit un presque super-pouvoir, hein, d'accord ? Faut pas imaginer faire des rayons laser avec les yeux, ou alors faut pouvoir me le justifier. Donc très simple, hein, vous dessinez, vous demandez à vos enfants de se dessiner en super-héros. Vous postez ça sur nos réseaux sociaux Instagram ou Facebook, la case de Seb, avec le hashtag moi presque super, ou vous pouvez nous l'envoyer sur lacaseseb.radioG@gmail.fr. Tony et Pauline choisiront parmi tous les dessins un vainqueur qui pourra repartir avec un album dédicacé. Et vous avez jusqu'à la prochaine émission pour jouer, et on fera les délibérations dans la foulée. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec une chanson qui me semblait avait pu inspirer cette bande dessinée, et qui d'après Tony absolument pas. Je vous laisse quelques instants avec le grand Aldebert et les super pouvoirs pourris.
Le docteur Maurice Danner, biophysicien un peu sous-boulé, cherche le moyen de réveiller les forces latentes que chaque homme possède en lui. Mais une surdose accidentelle de rayons gamma, avec 5M, bouleverse la composition chimique de son organisme. D'aucuns diraient...
Hé, tonton, ça veut dire quoi, ça ?
Bah, ça veut dire, en gros, quand il est contrarié, il devient tout vert, puis il peut lancer des bagnoles, tu vois.
Et toi, t'es un super-héros ?
Ben, je veux, mon neveu.
T'as quoi comme pouvoir ?
Ben, moi, par exemple, je peux... lire dans mes propres pensées, être invisible quand personne me mate, choper la crève en été, manger des danettes, vanille par quatre, reculer le temps d'une heure en hiver, déplacer les objets rien qu'en les touchant, voir au travers des murs de verre, synthétiser une odeur de pâté en rotant. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris. Mais c'est ainsi, mais c'est ainsi, pouvoir pourri, mais c'est ainsi.
C'est nul.
Changer l'acier en métal repoussera plus tard ce que je peux faire maintenant. Trouver swag de porter des sandales, prendre l'apparence d'un humain qui me ressemble vachement, faire sauter les tartines du toaster de loin, marcher sur l'eau quand elle gèle, prédire quel jour nous serons demain.
Le droit de vie et de mort sur les coccinelles.
Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris. Mais c'est ainsi, mais c'est ainsi, pouvoir pourri, mais c'est ainsi. Piqué par une grosse araignée génétiquement modifiée, bientôt vous verrez les rejetons, je serai le Wonder Tonton, à base de base ultra secrète, de shuriken dans les sockets, ravane à vision thermique, cocktail à la kryptonite, des super bouffons immondes, je débarrasserai le monde, vengeur à l'américaine, open bar chez les semaines, je survolerai tranquillou New York en costume chelou. Hier
moi j'ai fait un selfie avec Batman et l'homme fourmi.
Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, me sautant-ci. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, me sautant-ci. Mais c'est ainsi, pouvoir pourri. Mais c'est ainsi, pouvoir pourri. Mais c'est ainsi, pouvoir pourri. Mais c'est ainsi.
C'est nul.
Pouvoir pourri.
Et vous, c'est quoi votre super pouvoir pourri à la maison? N'hésitez pas à en parler avec vos enfants, parce que je suis sûr qu'ils ont plus de pouvoir que vous n'imaginez jamais. J'ai oublié de redonner les références. On parlait bien sûr de Lola Presque Super, de Tony Emeriot et Pauline Caster, aux éditions Kienes. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous venez d'écouter Aldebert et les super pouvoirs pourris. Et c'est toujours la case de Seb pour encore au moins trois quarts d'heure. Je vous ai dit que j'allais faire une thématique spéciale sur les enfants. Eh ben, je vais faire une petite entorse à mes chroniques BD-esques, puisque je vais vous parler d'un petit ouvrage qui n'est pas une BD, c'est un vraiment petit ouvrage, mais qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de L'arbre qui ne voulait pas perdre ses feuilles. C'est un scénario de Paul Ivoire, mais pas que, attention, j'y reviens, et c'est illustré par Anna Griot, et c'est aux éditions Mini Poulpe, dans la collection de Pulp Fiction. Alors c'est la collection Mini Pulp de chez Pulp Fiction. Vous allez me dire, oui, mais de quoi ça parle? En fait, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Capucine et qui, lorsqu'elle va ouvrir un petit livre sur les animaux de la forêt, elle va voir un arbre pousser au milieu des pages. Alors tout le monde sait que s'immerger dans un livre, c'est quelque chose qui est important, mais à ce point-là, c'était assez particulier. Et elle bascule, Capucine, à l'intérieur du livre, et elle va rencontrer un écureuil qui s'appelle Éclair, si je ne me trompe pas, qui va lui demander de l'aide. Il a besoin d'elle, parce qu'il y a un arbre en automne qui ne veut pas perdre ses feuilles. Et du coup, Capucine, elle est visiblement la seule parmi tous les animaux à pouvoir faire le nécessaire pour expliquer à l'arbre que c'est normal de perdre ses feuilles. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire, puisqu'on est sur un tout petit opus qui fait moins de 50 pages, mais c'est quelque chose de très sympathique, puisque la création de Paul Ivoire a été faite en collaboration avec des écoles et des élèves qui ont pu donner des thématiques et des éléments, en fait, pour écrire l'histoire. Alors, vous savez que moi, j'aime beaucoup, en fait, les choses qui s'adressent déjà aux enfants, mais quand c'est en plus créé avec les enfants, ça donne un truc vraiment très sympa. Bon, l'histoire, elle est très mignonne, elle permet de comprendre aussi que des fois, il y a des situations qui devraient être de la norme, mais qu'il y a des éléments qui peuvent faire que ça ne se passe pas comme d'habitude et qu'il faut pouvoir essayer de comprendre pourquoi un comportement est différent d'un comportement qu'on attend. Donc c'est une thématique qui peut être aussi développée pour les parents, pour essayer de comprendre pourquoi leurs enfants, par exemple, ils ne font pas exactement ce qu'ils ont envie. Enfin, ce que les parents ont envie, parce que les enfants font toujours ce qu'ils veulent, et de comprendre pourquoi, des fois, ils font ce genre de choses, mais aussi une thématique pour permettre aux enfants de comprendre certaines règles et certaines façons d'exprimer pourquoi ils ne veulent pas obéir à certaines règles. Le dessin d'Anna Griot est très très joli. Alors, encore une fois, je suis nul en détection de travail numérique ou pas, mais j'ai l'impression que c'est du crayon et c'est vraiment très très joli. C'est des couleurs qui claquent un petit peu. On est vraiment sur la thématique automnale. Vous avez toute une tripoter une collection de rouges et de orangés qui fonctionnent très très bien. C'est très joli, c'est très mignon, c'est vraiment sympa à lire et faut pas hésiter. C'est un petit ouvrage qui doit pas coûter très très cher, j'ai même pas fait attention. On est sur moins de 7 euros et c'est vraiment très mignon pour pouvoir discuter avec les enfants. Et je pense que les enfants qui débutent la lecture auront un grand plaisir à le lire ou à le découvrir avec la voix de leurs parents sur l'histoire. Donc voilà, c'était un petit écart, puisque c'est pas une BD, hein, mais on sait que maintenant la frontière BD... BD, livre, jeu, elle est de plus en plus floue. Alors, il n'est pas dit que je ne fasse pas d'autres incartades dans des univers qui ne sont pas ceux du 9e art. Je vous redonne les références. Il s'agit de l'arbre qui ne voulait pas perdre ses feuilles. C'est de Paul Ivoire et Anna Griot et de plein d'autres enfants. Et c'est aux éditions Pulp Fiction dans la collection Mini Pulp. On va continuer avec un autre ouvrage. Alors, je sais pas lequel je prends. Allez, pouf pouf, on va faire une incartade du côté du manga. On va parler de Lonely World. C'est aux éditions Kiun, dans la collection Seinen. Donc, c'est pas vraiment un truc pour enfants. Même si, il y a quand même une grosse thématique. Vous allez voir. Mais c'est pas vraiment, vous allez voir. L'auteur, c'est Iwa Tobineko. Je sais pas, je crois que c'est une fille, mais je ne suis pas sûr. Je le désignerai par le terme auteur. Et puis, voilà. De quoi ça parle Lonely World? Alors, imaginez un monde qui a fini par arriver à se passer de l'humain. Quand je dis qu'il a réussi à s'en passer, c'est que l'humain a tellement automatisé tout le monde. L'humain a tellement réussi à se créer des robots pour faire des choses au service de l'humain que lorsque l'humain a disparu, alors pour une raison qu'on ignore dans l'ouvrage, le monde a continué de se développer sans eux. Vous imaginez qu'il y a des robots, ils sont là, ils vont préparer de la viande, ils vont préparer des légumes, ils vont préparer des denrées périssables, ils les mettent dans des rayons, et puis comme c'est pas vendu, quand arrive la date de péremption, ils les balancent, ils recyclent et ils recommencent. Et puis il y a des systèmes de sécurité, il y a plein de choses, mais il n'y a plus d'humains. Et puis un jour, il y a une petite fille qui s'appelle, j'ai perdu son nom, Shi, qui va débarquer dans cette ville et qui semble poursuivie par des espèces de... Alors, ils ne s'appellent pas ça des robots, ils appellent ça des golems. Des espèces de golems qui sont en forme de cône avec un espèce de gros œil au milieu. On semble se rendre compte que ce sont des gardes. Et ces cônes poursuivent Shi. Elle va trouver protection dans l'épaule d'un autre golem qui va la protéger et qui va la faire venir dans son chez-lui pour une raison que je vous laisserai découvrir. Alors c'est génial parce que Lonely World, en fait, ça va nous parler de notre futur, de ce que l'on peut devenir alors qu'on est encore dans un confort génial. Mais il faut imaginer ce monde de solitude pour cette toute petite fille dans un monde où il n'y a que des machines qui n'expriment peu ou presque pas d'émotions, parce que le peu, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même quelques émotions qui sont qui transparaissent via certaines actions de certaines machines, alors qu'elles ne devraient pas, hein. Donc c'est vraiment sympathique. Il y a pas mal de questions, hein. Qui est cette petite fille, d'où elle vient, pourquoi cette machine qui est censée être programmée pour juste faire ce qu'on lui demande, elle prend cette petite fille sous son aile, pourquoi les cônes en veulent à Chi, on sait pas, on sait vraiment pas. Graphiquement, c'est très fin, c'est mignon, on a une espèce de trait un peu crayonné avec des... comment dire, un ancrage parfois un petit peu plus fort qui permet d'avoir un effet encore un peu plus choupi qui fonctionne vraiment bien. Il y a quelques pages avec des gros décors qui sont bien poussés, qui sont bien travaillés, et il y a pas mal de rebondissements rien que dans ce premier tome, et j'avoue que ça donne vraiment envie de découvrir la suite parce que c'est cool. Je vous redonne les références, il s'agit de Lonely World de Iwa Tobineko, et c'est publié aux éditions Kiun dans la collection Seinen. Allez-y, c'est vraiment sympa, si vous avez envie de voir quelque chose qui change des mangas de baston, c'est vraiment le moment d'y aller. On continue, attention je vais tousser, je m'excuse. On va continuer avec un ouvrage récent que j'ai découvert, que je n'aurais pas forcément pris. Les deux suivants, je ne les aurais pas forcément pris de moi-même sur l'étagère. Et pourtant, ça aurait été une grosse erreur. Le premier de ces deux albums s'appelle Elle. C'est le tome 1, s'appelle La Nouvelle, avec une petite parenthèse avec un S à la fin. C'est aux éditions Le Lombard, c'est scénarisé par Kit Toussaint et c'est dessiné par Aveline Stockard. Et c'est assez sympathique, ça nous parle de Elle. C'est son prénom, hein, et qui est une fille qui va déménager et qui va arriver dans une nouvelle école. Et elle va rencontrer d'autres élèves. Alors pas forcément des nerds, même si on peut imaginer que c'est des enfants qui sont déjà un petit peu en marge de la société. Et puis elle va très vite arriver à s'en faire des copains. Mais voilà que, en fait, lorsqu'elle est sous pression, lorsqu'il y a une grande dose de stress, lorsqu'il y a beaucoup de choses, on a l'impression qu'il y a une autre personnalité qui prend le dessus. Et il n'y aurait pas qu'une seule personnalité supplémentaire. Elle, elle aurait au minimum 5 personnalités. La personnalité complète, la timide, la triste, la mutique, la colérique et la joyeuse. Je crois que j'en ai une de trop, mais il n'y en a peut-être pas que 4. Et du coup, c'est vraiment très sympathique parce que ça parle effectivement des troubles multiples de la personnalité. On sent qu'il y a une petite explication fantastique, mais on n'est pas sûr. Et de temps en temps, on voit certains éléments qui peuvent se passer dans la tête de elle. Et on voit une jeune fille aux cheveux bleus qui la surveille et qui lui dit bah, écoute, à un moment, tu vas être obligé de lâcher prise et à un moment, c'est moi qui vais sortir. Alors pourquoi je dis aux cheveux bleus? Puisque c'est une petite fille qui lui ressemble énormément. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'elle va switcher de personnalité, eh ben sa couleur de cheveux va switcher vers une autre couleur de cheveux qui correspond à la personnalité qui vient de prendre le contrôle dans la tête de elle. Donc c'est des thématiques qui sont très intéressantes. Il y a une part de mystère avec un peu de fantastique, il y a une part de psychologique puisqu'effectivement on va comprendre comment fonctionne une personne dont les personnalités peuvent switcher et que c'est pas juste quelqu'un qui peut être caractériel et se mettre à bouder pour rien. C'est hyper intéressant. Les personnages sont globalement attachants. Une mention spéciale à la copine un petit peu étourdie dont j'ai perdu le nom qui est complètement centrée et qui donne une grosse dose d'humour. Et il y a une petite enquête qui se met en place pour comprendre certains éléments qui vont permettre peut-être d'élucider pourquoi elle a autant de personnalité dans sa tête. Graphiquement, c'est très joli, on est sur des couleurs très pop. Alors là, par contre, je suis presque pas de doute, on est sur du numérique, mais c'est vraiment bien travaillé, les personnages sont cool. Ils ont leur petit caractère et le monde intérieur de elle est plutôt bien représenté, même s'il n'est pas omniprésent à chaque fois. Et ça permet d'avoir des petites incursions de son psychisme dans l'histoire et de comprendre peut-être un petit peu mieux ce qui peut lui passer par la tête à certains moments. Ah, c'est vraiment très sympa. Donc foncez-y, c'est le tome 1, donc il y en aura certainement d'autres, et ce serait dommage qu'il n'y en ait pas d'autres. Ça s'appelle Elle, c'est de Kit Toussaint au scénario, c'est d'Aveline Stockard au dessin, et c'est publié aux éditions Le Lombard. Encore un petit peu de tout, hein, désolé. Et puis, la dernière BD avec Cœur Collège de Becca et Maya, Secret d'amour. C'est le sous-titre et c'est aux éditions Dupuis. Alors, comment vous dire? Je vous disais qu'il y avait des bouquins que j'aurais pas forcément pris de mon plein gré, mais là, clairement, c'était beaucoup trop girly pour moi. Clairement, si vous avez une photosensibilité au rose, je crois qu'il y a moyen que ça vous fasse du mal. Mais, c'est vraiment dommage de passer à côté. Parce qu'effectivement, on a un ouvrage qui est vraiment intéressant et que ce serait dommage de passer. Une fois qu'on a ouvert la couverture, parce qu'en plus, il y a tout un côté rose avec une espèce de côté doré brillant mais rose sur la couve, et c'est vrai que le rose voilà, mais faut passer outre parce que vraiment ça marche très très bien. L'histoire, c'est celle de deux jeunes filles qui s'appellent Linon et Garance qui ont 11 ans et qui décident de mener une enquête dans leur collège pour savoir ce que c'est que l'amour. Alors à 11 ans, effectivement, c'est une question qui est très complexe, l'amour, et qu'est-ce que c'est? Ben C'est complètement compliqué. Donc on a un livre qui va... C'est une histoire, il y a l'histoire de ces deux personnages, mais il y a également une réflexion avec des personnages qui peuvent sembler un petit peu caricaturaux, mais qui représentent différentes façades de l'amour, différentes facettes, pas des façades, et qui vont permettre de poser des questions. Si vous avez une préado qui commence à avoir un petit copain et qui se pose des questions, eh ben, il est fort probable que certaines des réponses puissent se trouver dans cet ouvrage, parce que ça brosse assez large. C'est fait de manière assez ludique. Linon et Garance ne se posent pas de barrières. Elles vont directement voir les personnes les plus populaires, les personnes qu'ils semblent les plus aptes à parler de l'amour dans leur collège, et elles vont leur poser des questions directement. Pourquoi t'es en couple avec telle personne? Qu'est-ce que tu penses de tel garçon? Et du coup, c'est sans filtre. Bon, c'est peut-être là où il y a une petite limite, c'est que effectivement, elles arrivent à obtenir des informations et des confessions de certaines personnes, peut-être beaucoup trop facilement. Après, s'il avait fallu à chaque fois convaincre les personnes, vous imaginez que vous auriez un dictionnaire dans les mains et pas un album de BD. Mais du coup, c'est vraiment sympa. Les deux gamines, je vais dire des gamines, sont très attachantes. Graphiquement, c'est très mignon, c'est bien fin, c'est bien détaillé. Là encore, je pencherai pour du numérique, mais bon, si je pense quand même qu'il y a beaucoup de numérique, au moins la couleur. Mais du coup, ça fonctionne bien. C'est très vivant, c'est très proche de la réalité. Au niveau du texte, j'ai peut-être juste un autre reproche là-dessus, c'est qu'effectivement les bulles sont pas mal grandes, donc ça rend les choses assez faciles à lire pour les plus jeunes, même pour les plus vieux qu'on l'a vu qui baissent, mais ça parfois prend trop de place dans les cases, et c'est vrai qu'au départ ça fait un effet un petit peu particulier. Mais effectivement, c'est un ouvrage qui est très joli, qui est bien détaillé, ça relate beaucoup le quotidien, et ça le relate bien. Les enfants sont des enfants qu'on pourrait avoir, des enfants qui ressemblent pas mal à ceux qu'on peut avoir déjà. Et puis, ça effectivement, ça parle de beaucoup de thématiques qui sont pas forcément évidentes. Si vous êtes parent et que vous comptez le confier à vos enfants, je vous invite quand même à le lire un petit peu avant. Ça peut vous permettre de répondre facilement à certaines interrogations et de compléter peut-être des informations de l'ouvrage, notamment sur une thématique un petit peu plus précise. Mais allez-y, vous laissez pas rebuter par la couverture, hein. C'est pas qu'elle est pas belle, hein. C'est qu'effectivement c'est très girly, et en tant que parent, c'est pas forcément ce vers quoi on se dirigerait. On aurait peut-être l'impression d'avoir une BD préformatée, alors que ce serait une grosse erreur de passer à côté de cet ouvrage. Je redonne les références, il s'agit de Cœur Collège, de Becca et Maya. C'est publié aux éditions Dupuis, et le tome 1 s'appelle Secret d'amour. On va se faire une petite pause musicale avec une dame qui fait pas mal de bruit, qui s'appelle Dorothy, et la chanson s'appelle What's Coming to Me. Il y a un peu de blanc avant que ça se lance. Go.
I could feel it from the start. Thick like fog, it was the warning of a broken heart. Blinded by the lightning in the white hot power of love. Rain and thunder washing me. Cursing the skies above. A storm's brewing, babe. I ain't got time to sit and pray. Because this life don't come free. I got what's mine coming to me. Yeah.
cause this life don't come free. I got what's mine coming to me.
Dorothy, what's coming to me? Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la caisse de Seb. Il nous reste moins d'une demi-heure ensemble et j'espère que vous passez toujours un bon moment. Moi, je m'éclate. Voilà, mais ça se voit pas. Et puis, comme on n'a pas vraiment de discussion de vous à moi, eh ben, vous pouvez pas vous rendre compte que je passe un très bon moment avec vous, même si vous n'êtes pas avec moi. Bref, fini de divaguer. On va continuer avec encore un petit peu de manga. Vous savez sans doute, et même si vous ne le savez pas, je vous le dis, que je suis quelqu'un qui adore les jeux vidéo. Bon, j'ai de moins en moins de temps pour en faire, parce que vie de famille, parce qu'il faut vous faire de belles émissions de radio, et ben, du coup j'ai moins le temps de jouer. Donc du coup, quand j'ai besoin de lire des bandes dessinées, et ben, si j'ai des bandes dessinées sur le jeu vidéo, et ben, c'est super cool, parce que je fais un petit peu du jeu vidéo par procuration. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Power Gamer Adventure, qui est publié aux éditions Nobinobi, c'est de Kazuyoshi Seto. Toujours mes excuses pour des prononciations qui sont parfois forcément aléatoires et approximatives. De quoi ça parle Power Gamer? Donc un Power Gamer, c'est quelqu'un qui est super balèze aux jeux vidéo. Mais quand on est super balèze, si vous voulez, Far Cry 6 vient de sortir, et bien faut savoir qu'un Power Gamer, il a déjà poncé deux ou trois fois, et qu'il a, il a été capable de trouver plein de petits trucs planqués que personne d'autre n'a pu trouver. Et bien faut savoir que Skill Saiba, c'est un Power Gamer, un vrai, un gros nerd. Faut que j'arrête avec le terme nerd, c'est péjoratif en fait. Joue et passe plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu'à faire quoi que ce soit d'autre. Et Skill un jour va tomber dans un bac à soldes sur une cartouche de jeu qui ressemble quand même pas mal à une cartouche de Switch. Je fais pas de pub, hein, c'est juste que ça y ressemble pas mal. Il joue à un jeu qui ressemble à une Switch ou une PS Vita ou une PSP. C'est vous qui choisissez. Et cette cartouche en fait va lui demander s'il veut jouer à un jeu particulier et il lui demande si bah, il a envie d'engager et de risquer sa vie dans ce nouveau jeu qui s'ouvre à lui. Bah, ce qu'il y fait, bah ouais, forcément, c'est du jeu vidéo, donc j'y vais à fond. Et là surgit un cube qu'on pourrait croire sorti de Super Mario. Vous savez, les cubes où on colle les grands coups de dents et qui a soit des pièces, soit des power-up, qui lui dit, bah écoute, on a un problème, le jeu que tu vas jouer, c'est un jeu qui sert à sauver le monde. Et bah, y a des monstres qui peuvent venir des jeux vidéo, s'incruster dans la vraie vie et va falloir que toi tu arrives à les battre et tu vas peut-être gagner des power-up, gagner des niveaux et des points d'expérience quand tu vas arriver à les battre. Et là Skill il fait, trop bien, j'y vais, go, à fond. Pas un moment il a réfléchi, hein. C'est du jeu vidéo pour lui, il n'y a pas de problème. Et effectivement il y a des monstres qui vont débarquer, un petit peu comme s'il y avait des glitches des fois qui dépassaient. Et Skill, ces monstres-là il les connaît. Parce que c'est des monstres qu'il a déjà rencontrés dans des jeux qu'il a joués, et du coup ça lui donne un avantage assez certain, non pas physique, mais surtout stratégique. Et du coup il va pouvoir utiliser des power-up, des armes, qui lui sont fournies par son ami le cube, que j'ai perdu son nom, je sais même pas s'il en a un nom. Et bah c'est toujours un petit peu particulier. Imaginez par exemple que lors du premier combat, il va affronter un Minotaur, hein, c'est un ennemi qu'on rencontre partout dans beaucoup de jeux vidéo, parce que ça a devenu un classique, et pour l'affronter, il va récupérer une pioche de Minecraft, qui va lui permettre de crafter des trucs. Mais du coup, construire des trucs pour taper sur un Minotaur, c'est pas forcément toujours évident. Donc il va utiliser son intelligence pour utiliser cet item et remporter la victoire. Alors oui, j'ai parlé de Minecraft parce que l'ouvrage regorge de petits clins d'œil, de petites choses au monde du jeu vidéo. Si vous êtes un gamer, vous devrez absolument kiffer ces toutes petites références. Alors c'est pas que ça, c'est pas non plus du name dropping ou de l'ultra référencé fan service toutes les 15 secondes, mais on sent que Seto aime le jeu vidéo et a envie de lui rendre hommage. C'est un shonen, donc c'est un manga où le héros va tenter de se dépasser pour devenir de plus en plus fort au fur et à mesure. Et c'est vraiment super fun. Graphiquement, on est sur du dessin type shonen. On a un personnage qui est plutôt charismatique, qui est plutôt dynamique. Il y a pas mal d'action. C'est vraiment sympa. Je vois pas quoi dire de plus à part c'est vraiment sympa. Et si vous aimez le jeu vidéo, ben allez-y. Si vous voulez faire découvrir le monde du jeu vidéo à vos enfants, conseillez-leur l'ouvrage. C'est vraiment super cool. C'est un premier shonen qui peut se commencer à partir de 8 ans. Donc vous lui faites commencer Power Gamer et puis vous enchaînez après avec One Piece. Vous attendez un petit peu hein, parce qu'il n'y a que 4 tomes hein, sur Power Gamer, donc vous n'allez pas pouvoir l'occuper sans s'étendre non plus vos enfants, mais c'est vraiment une très très bonne idée, un bon premier pied dans le domaine du shonen ou du jeu vidéo. Je vous redonne les références, il s'agit de Power Gamer Adventure, c'est aux éditions Nobinobi, c'est de Kazuyoshi Seto et c'est vraiment super sympa et c'est une série courte en 4 tomes, donc faut pas hésiter à y aller. On va continuer avec un ouvrage qui s'appelle Ours. C'est publié aux éditions Kinaï. Alors je ne sais pas si je vous ai déjà dit que j'aime beaucoup ce que font les éditions Kinaï. Hein. Je ne veux pas faire de favoritisme, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai lu un de leurs ouvrages, j'ai pas été déçu parce que j'attendais pas forcément quelque chose de précis. Hein. Mais il y a une certaine façon de raconter les choses et de parler de BD américaine sans pour autant tomber dans le comics. Et Ours se paye en plus le luxe de raconter une belle histoire vraiment très sympa. Ours, c'est un chien guide d'aveugle qui fait partie d'une portée et c'est lui qui avait visiblement le plus d'aptitude pour pouvoir devenir chien guide d'aveugle. Et il va se lier, il va être confié à Patrick, un homme qui, du coup, est aveugle, et qui va se reposer énormément sur Ours. Mais voilà, un soir, au détour d'une balade, Ours commence à se comporter étrangement. Patrick ne comprend pas vraiment ce qui peut se passer, et Ours va se retrouver prostré dans son panier sans vraiment qu'on puisse comprendre ce qui lui arrive. Alors nous lecteurs, on a vu ce qui s'est passé puisque la vision d'Ours a commencé à s'obscurcir. Il a commencé à perdre la vue. Et pour un chien guide d'aveugle devenir aveugle, imaginez comment ça peut être compliqué. Imaginez un chien à qui on a expliqué qu'il fallait qu'il canalise tous ses sens sur la vue pour pouvoir guider quelqu'un dans un environnement où cette personne-là ne voit pas. Et bien pour Ours, ça devient très compliqué. Et par un concours de circonstances que je ne vais pas vous révéler, Ours va se retrouver très éloigné de son domicile et de son ami de toujours, Patrick. Et il va tout faire pour retrouver Patrick. Et pour ça, il va être obligé d'affronter des choses qu'il ne connaît pas, puisqu'il a toujours été dans un environnement urbain, et puis surtout des choses qui vont le perturber, et puis la nature par exemple, c'est quelque chose qu'il n'a pas eu l'occasion de découvrir, c'est quelque chose qu'il n'a pas eu l'occasion de vraiment affronter au quotidien, et du coup il va pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir retrouver Patrick. Pourquoi c'est sympa? Parce que non seulement graphiquement c'est très joli, on est sur un format, c'est pas un format à l'italienne, mais c'est un format, je dirais, presque carré, et c'est très beau graphiquement. Je pense encore une fois que c'est du numérique, mais j'en ai aucune certitude, donc je ne veux absolument pas frustrer qui que ce soit. On est sur un dessin qui est un petit peu carré au niveau des représentations, c'est vraiment très sympathique, et puis le petit jeu en fait que vont utiliser les auteurs pour représenter visuellement les choses que Ours s'imagine mentalement, ça donne des effets assez rigolos qui sont vraiment très agréables. Voilà, donc je vous redonne les références sur cet ouvrage-là. Il s'agit de Ours, c'est de Ben Quinn et Joe Todd Stanton, je me bafouille, et c'est publié aux éditions Kinaï. Ça se paie aussi le luxe de nous expliquer à quoi servent les chiens guides aveugles et pourquoi ils sont hyper importants, et parler aussi de la cécité. Encore une fois, c'est une très belle BD. Allez-y, sans hésiter. On va continuer au niveau jeunesse. J'ai fait plein de trucs jeunesse ce soir avec Lightfall de Tim Probert. Ça s'appelle La Dernière Flamme. C'est aux éditions Gallimard Bande Dessinée. C'est un ouvrage fantastique puisqu'on y découvre Béa, une jeune fille qui vit avec son grand-père, un cochon sorcier. Et un soir, elle va s'éloigner pour aller chercher des ingrédients de mémoire. Ça fait un petit moment que je l'ai lu. Et elle va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Cad. C'est un Gueldurien. Un Gueldurien, moi j'ai l'impression que c'est un axolote anthropomorphe. Hein, je suis pas sûr, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Donc un Gueldurien qui est parti à l'aventure pour retrouver les siens. Il décide d'accompagner Béa et vont découvrir que son grand-père est parti. Un grand-père qui avait visiblement des troubles de la mémoire. Et nos deux amis vont se mettre en recherche et non seulement en recherche, mais aussi ils partent au secours en fait du grand-père et peut-être de la nation gueldurienne dont Cad cherche. C'est vraiment super joli. On est sur un ouvrage qui est quand même assez massif. On est sur presque 260 pages, je crois. Et on est sur un ouvrage qui est format grand roman. Et c'est vraiment super joli. C'est vraiment travaillé. On a l'impression de voir des personnages de dessin animé se mouvoir dans l'ouvrage. Graphiquement, c'est très joli. Je viens de le dire déjà. Au niveau des couleurs, c'est vraiment top. Et c'est y a un côté un peu c'est marqué au dos, mais on le sent tout de suite. Il y a un côté grande aventure à la Miyazaki, si vous avez aimé le château ambulant ou un petit côté Ponyo, un petit côté aussi je ne retrouve plus cette jeune fille qui découvre un monde alors que ses parents se sont engouffrés dans la nourriture et sont transformés en cochon. J'ai perdu son nom. Mais c'est vraiment sympa. Il y a tout un passage sur l'amitié, puisque avec Cad, Béa et Cad vont se découvrir l'un l'autre et découvrir qu'ils ont peut-être plein de de points communs qu'ils n'avaient pas forcément anticipés. Et c'est vraiment 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 sympa. C'est vraiment quelque chose de fun. Et il faut pas passer à côté. Je vous redonne les références. Il s'agit de Lightfall, c'est de Tim Probert. C'est sous-titré La Dernière Flamme, c'est aux éditions Gallimard Bande Dessinée. On va s'approcher petit à petit de la fin de l'émission. Il me reste encore quelques BD. Là, je vais vous parler d'un autre ouvrage qui est sorti récemment aux éditions Delcourt dans la collection Néopolis. C'est de Philippe Ogaki et ça s'appelle Astra Saga, sous-titré L'Or des Dieux. Alors, comment dire, si un libraire l'a posé en évidence, vous ne pouvez pas le louper. Vous êtes sur un ouvrage qui est format BD classique, très bleu, avec des dorures qui claquent, qui représentent plein de personnages. De personnages guerriers qui semblent tout droit issus de la mythologie. De quoi ça parle ? Alors c'est un petit peu complexe puisqu'il faut imaginer deux nations qui s'affrontent et qui s'affrontent depuis des temps immémoriaux. Et dans ces affrontements, en fait, on va suivre une escouade d'élite qui en suivant les ordres de son général, va faire une manœuvre complètement insensée et suicidaire pour récupérer un élément. Pourquoi ils font ça? C'est parce que avec leur capitaine, le donneur d'ordre, il y a un type qui donne des directions et qui dit ce truc-là, il vaut plus que la vie de tous vos mecs. Si ça, ça part, c'est foutu. Donc ces gars-là vont aller le chercher. Et c'est entrecoupé de flashbacks qui non seulement vont parler de ces soldats d'élite, c'est des soldats dragons de mémoire. Hein. J'aurais dû préparer un petit peu mieux, je suis désolé. Qui vont nous aider à comprendre un petit peu tout l'environnement géopolitique de cet univers. Filippo Gacchi aime bien faire des choses qui sont non seulement très fouillées, mais aussi complexes, mais qui se tiennent de bout en bout avec plein d'éléments scénaristiques qui aident à la construction et à la compréhension d'un univers. Et là, c'est tout à fait le cas. On a quelque chose de construit, quelque chose de cohérent. Si on a une question, et bien peu de temps après, on a une réponse sur des éventuelles choses logiques. On n'est pas sur une structure narrative classique, hein. On a pas mal de flashbacks comme je vous le disais. Et puis graphiquement, Filippo Gacchi fait quelque chose qui est très précis. On a un dessin qui est très détaillé, il y a des scènes d'action qui sont hyper épiques, qui peuvent être très dynamiques. Et puis on a des couleurs qui sont là, je pense ne pas me tromper non plus, du numérique, avec des effets visuels rajoutés en numérique qui fonctionnent très très bien. Il y a un découpage qui est vraiment bien travaillé, qui est vraiment très dynamique en fonction des différentes scènes, et ça donne quelque chose d'hyper agréable à lire malgré un aspect qui peut paraître hyper dense au départ. Et puis vous savez que j'aime bien, moi, quand les choses s'innovent, quand il y a des petites nouveautés, j'aime bien les nouvelles technologies. Et depuis quelques temps, je me rends compte que les éditions Delcourt font beaucoup d'ouvrages en réalité augmentée avec des petits plus, et là Astra Saga est, sauf erreur de ma part, intégralement en réalité augmentée. Il suffit juste de télécharger une application sur votre téléphone, je crois que c'est Delcourt Soleil Plus, et vous avez une BD qui va vraiment aller plus loin que la simple lecture ou que le simple « au fait, vous avez un crayonné disponible » ou « au fait, vous avez une petite vidéo derrière ». Ici, quand vous prenez une bataille spatiale, et il y en a pas mal, sur des doubles pages en plus, qui sont vraiment fabuleuses, et ben, vous avez les noms des vaisseaux, vous avez le crayonné du vaisseau, et vous avez une représentation 3D du vaisseau lui-même, et ça donne un truc qui est vraiment, vraiment agréable, parce que vous imaginez, si vous aviez, à chaque fois que vous avez une bataille spatiale, vous aviez vos figurines de vaisseau juste à côté, qui permettent de reconstituer le vaisseau et la bataille, et ben vous avez ça en fait, dans Astra Saga. Ça pousse beaucoup plus loin, c'est vraiment très complexe, c'est vraiment hyper intéressant, et il faut y aller, parce que vraiment, on est sur un ouvrage de space opéra qui fonctionne très bien. C'est basé sur les mythologies nordiques, hein, donc ça a du fond que vous allez peut-être connaître si vous avez vu des séries comme Thor, par exemple, au cinéma, ou Loki, mais ça utilise ça de manière très différente, et c'est vraiment un très beau bouquin. J'adore ce que fait Filippo Gacchi, et encore une fois, je ne suis pas déçu, et je pense que vous ne serez pas déçu non plus si vous avez l'habitude de son travail. Si vous n'avez pas l'habitude de son travail, c'est une occasion de le découvrir, et en plus d'avoir une BD franchement magnifique sur votre étagère. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps? On va parler un petit peu de comics rapidement, parce qu'il ne me reste pas tant de temps que ça, avec un ouvrage qui est paru aux éditions Urban il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Batman The World. Alors pourquoi Batman The World? C'est quoi la thématique de Batman The World? Eh bien, ce sont plein de petites histoires qui ont été confiées à des auteurs de nombreux pays. Je crois que j'avais dû recenser le nombre d'auteurs qui sont présents dans cet ouvrage, mais il y a 14 récits, pardon, qui sont dans cet ouvrage. On a des histoires qui ont été confiées à des auteurs turcs, polonais, mexicains, brésiliens, chinois, des allemands et même, cocorico, des français. L'histoire française, elle est, y a des gens qui font des têtes bizarres au hublot de la radio, mais ça, c'est des gens qui vont faire un gros bazar dans quelques instants. Et l'histoire française, elle a été confiée au scénario de Mathieu Gabella et au dessin de Thierry Martin. Et il a décidé d'inviter Batman dans le musée du Louvre. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire, parce que c'est des... comment dire, c'est des histoires courtes, mais c'est vraiment sympa. Ça change un petit peu des histoires qu'on peut avoir l'habitude, et puis ça se marie très bien. Un ouvrage éventuellement à lire dans la continuité ou à picorer, mais ça permet de donner d'autres visions du Dark Knight, et c'est vraiment très 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 sympa. Et j'ai un truc qui tourne derrière en musique, mais je ne sais pas quoi. Hop. Et je ne sais plus ce que je disais. Bref. That's all, folks. Et oui,
vous venez...
le générique qui part trop tôt. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Vous pourrez retrouver dans quelques instants le podcast de l'émission sur www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les modalités du concours seront disponibles dans la soirée. Ce sera relayé sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. On se retrouve également demain pour un nouvel épisode des Voix du Scénarium. Pour retrouver le concours, je disais dans quelques instants, et puis on se retrouve pour de nouvelles lectures dans 15 jours. Et en attendant, n'oubliez pas de lire, ben, il paraît que ça rend intelligent.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
I started to believe in all the stories. I couldn't stand to fight. I was so tired of hanging on to that last bit of light. Oh, but it was so.